a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika.
Bonjour, c'est l'émission Livres et Amis. Nous continuons la lecture de Alain Mabangou avec ses 8 leçons au Collège de France au sujet de la littérature africaine et la culture, dirons-nous plus généralement, parce que ça, la chaire qu'il inaugure est une chaire sur la culture. Denis Laferrière venait d'être entré à l'Académie française. Je crois que le Collège de France pouvait me faire moins que d'emmener un nègre. Quand j'ai entendu sur Internet toute la séance d'introduction, il a été introduit par celui qui l'a parrainé. Et alors, le type, il s'emmêle les pinceaux pour dire que c'est pas parce qu'il est un noir qu'il a été à l'Académie française, mais c'est parce qu'il est un très bon écrivain. Et en fait, vous allez écouter, ça ne parle que de la littérature africaine, parce que les gens ne devaient pas connaître du tout. Hein. Ça, ces conférences ont été données, je le rappelle, en 2016. Hein, et au moment dont c'est la même année d'ailleurs où il y a eu la publication de Denis Laferrière sur Haïti. Lui, c'est un Haïtien. Donc, c'est je rappelle qu'il est né au Congo-Brazzaville. Et il y a un souvenir d'enfance, certainement, dans ce roman Petit Piment, des souvenirs d'enfance. Mais c'est curieux, il n'en parle pas. Il n'en parle pas dans ce livre. Moi, je l'avais lu. Et je me souviens qu'à la fin du livre, il disait « J'en ai fini avec Petit Piment. C'est fini, je me sépare pour toujours. »
Petit Piment, c'était Mabankou ?
Ouais.
D'accord. Excuse-moi, je ne sais pas sûr.
Et ensuite, donc, il a fait des études d'économie et de droit, mais il n'est pas du tout universitaire. Et il est parti en 2002 aux États-Unis. Il a été pendant 16 ans, c'est une chose que vous avez déjà entendue, mais un petit rappel, consultant dans une grosse boîte d'économie, je ne sais plus son nom. Ensuite, il a été pris à l'université de Michigan, à Narbot, puis carrément à Los Angeles. Et il a eu le prix Renaudot en 2006 pour Mémoire de Porc-Épic. Et il habite actuellement à Santa Monica depuis 2005. Et il est heureux en disant qu'ailleurs aux États-Unis, il ne pourrait pas à cause du racisme, mais qu'à Los Angeles, c'est très bien. Là, on va avoir ses prises de position sur la francophonie, parce que c'est quelque chose à quoi on est habitué. Et il ne voit pas du tout les choses comme traditionnellement. Il aime bien d'ailleurs, quand il aborde un sujet, c'est ce qui est passionnant chez lui, prendre un point de vue qui n'est pas banal et qui permet de faire bien ressortir la vérité des choses. Et pour introduire donc cette deuxième émission sur Alain Mabankou, eh bien, voyons la lettre qu'il a écrite au président de la République. Il l'avait rencontré, il lui avait dit qu'il n'était pas du tout d'accord avec ce qu'il avait dit dans son discours sur l'Afrique. Et malgré tout, il s'est vu invité à une commission pour débattre de la francophonie et il refuse. Voilà pourquoi.
Donc la lettre ouverte au président de la République française, 15 janvier 2018. Monsieur le Président, dans votre discours du 28 novembre à l'université de Ouagadougou, puis dans un courrier officiel que vous m'avez adressé le 13 décembre, vous m'avez proposé de contribuer aux travaux de réflexion que vous souhaitez engager autour de la langue française et de la francophonie. Au XIXe siècle, lorsque le mot francophonie avait été conçu par le géographe Onésime Reclus, il s'agissait alors, dans son esprit, de créer un ensemble plus vaste, pour ne pas dire de se lancer dans une véritable expansion coloniale. D'ailleurs, dans son ouvrage « Lâchons l'Asie, prenons l'Afrique » (1904), dans le dessein de pérenniser la grandeur de la France, il se posait deux questions fondamentales. Où renaître? Comment durer? Qu'est-ce qui a changé de nos jours? La francophonie est malheureusement encore perçue comme la continuation de la politique étrangère de la France dans ses anciennes colonies. Repenser la francophonie, ce n'est pas seulement protéger la langue française, qui du reste n'est pas du tout menacée comme on a tendance à le proclamer dans un élan d'autoflagellation propre à la France. La culture et la langue française gardent leur prestige sur le plan mondial. Les meilleurs spécialistes de la littérature française du Moyen Âge sont américains. Les étudiants d'Amérique du Nord sont plus sensibilisés aux lettres francophones que leurs camarades français. La plupart des universités américaines créent et financent sans l'aide de la France des départements de littérature française et d'études francophones. Les écrivains qui ne sont pas nés en France et qui écrivent en français sont pour la plupart traduits en anglais. Amadou Kourouma, Anna Moy, Boualem Sansal, Tierno Monenembo, Abdourahmane Vaberi, Ken Bougoul, Véronique Tadjo, Tahar Benjeloun, Aminata Sofal, Mariam Abba, etc. La littérature française ne peut plus se contenter de la définition étriquée qui, à la longue, a fini par la marginaliser alors même que ses tentacules ne cessent de croître grâce à l'émergence d'un imaginaire monde en français. Tous les deux, nous avions eu à cet effet un échange à la Foire du Livre de Francfort en octobre dernier. Et je vous avais signifié publiquement mon désaccord quant à votre discours d'ouverture, dans lequel vous n'aviez cité aucun auteur d'expression française venu d'ailleurs, vous contentant de porter au pinacle Goethe et Gérard de Nerval et d'affirmer que l'Allemagne accueillait la France et la francophonie, comme si la France n'était pas un pays francophone. Dois-je rappeler aussi que le grand reproche qu'on adresse à la francophonie institutionnelle est qu'elle n'a jamais pointé du doigt en Afrique les régimes autocratiques, les élections truquées, le manque de liberté d'expression, tout cela orchestré par des monarques qui s'expriment et assujettissent leur population en français. Ces despotes s'accrochent au pouvoir en bidouillant les constitutions rédigées en français, sans pour autant susciter l'indignation de tous les gouvernements qui ont précédé votre arrivée à la tête de l'État. Il est certes louable de faire un discours à Ouagadougou, à la jeunesse africaine, mais il serait utile, Monsieur le Président, que vous prouviez à ces jeunes gens que vous êtes d'une autre génération, que vous avez tourné la page et qu'ils ont droit, ici et maintenant, à ce que la langue française couvre de plus beau, de plus noble et d'inaliénable la liberté. Par conséquent, et en raison de ces tares que charrie la francophonie actuelle, en particulier les accointances avec les dirigeants des républiques bananières qui décapitent les rêves de la jeunesse africaine, j'ai le regret, tout en vous priant d'agréer l'expression de ma haute considération, de vous signifier, Monsieur le Président, que je ne participerai pas à ce projet. Alain Mabankou.
À remarquer, il dit que la langue française n'est pas menacée, mais on sait que l'anglais est en train de bien prendre le dessus. Mais avec ces longues années passées aux USA, il a dû voir aux USA le grand développement de la littérature africaine. Ben évidemment, ils sont en avance sur nous, hein. Pas pour la lutte contre le coronavirus, mais sinon, c'est sûr qu'ils ont plus de moyens. Et là, je crois qu'ils passent un peu du... Ils caressent dans le sens du poil les gens qui sont là et qui sont bien franchouillards et qui sont contents d'entendre dire que la littérature française, que la France et la littérature francophone ne sont pas menacées. Deuxième remarque que je ferai, là, il parle de la francophonie. Eh bien, il est bien vrai que la francophonie, nous, on l'imaginait comme la France au centre et la belle langue française qui va se répandre dans toute l'Europe et voire dans le monde entier. Et là, cette belle langue française, c'est surtout la langue au XVIIIe siècle de la diplomatie. Et ça reste encore un peu, mais l'anglais est en train de bien la grignoter. Voilà. Donc le ton est donné. Il est quelqu'un qui est passionné de langue française, mais attention, la francophonie, le centre n'est pas la France, c'est partout. C'est partout. Il enlève la prééminence à la France. Et deuxièmement, il reproche surtout à le président Macron d'avoir cité Goethe et Gérard Nerval au lieu de citer des écrivains francophones, c'est-à-dire des Africains qui écrivent en français, mais qui ont pour sujet l'Afrique. Et on a parlé la semaine dernière de la négritude, et on n'avait pas pu vous lire parce que on avait trop à lire ce qu'il dit des femmes dans ce mouvement de la négritude des années 30, avec au sommet l'année 1921.
Suzanne Roussy-Césaire, que Césaire épouse en 1937, publiera ses écrits, comme indiqué plus haut, dans la revue Tropique, créée en 1941 avec son époux et René Ménil. La revue, jugée anticolonialiste et subversive, fut interdite par le régime de Vichy. Suzanne Césaire y aura néanmoins publié plusieurs textes d'importance, comme Léo Frobenius et le problème des civilisations, ou encore André Breton, poète, et le grand camouflage, titre retenu pour ses écrits de dissidence parus en 2009 aux éditions du Seuil. On peut l'entendre clamer. Ici, les poètes sentent chavirer leur être, et humant les odeurs fraîches des ravins, ils s'emparent de la gerbe des îles, ils écoutent le bruit de l'eau autour d'elles, ils voient s'aviver les flammes tropicales non plus aux balisiers, aux gerberas, aux hibiscus, aux bougainvilliers, aux flamboyants, mais aux faims, aux peurs, aux haines, à la férocité qui brûle dans le creux des mornes. C'est ainsi que l'incendie de la Caraïbe souffle ses vapeurs silencieuses, aveuglantes pour les seuls yeux qui savent voir. Dans la revue du Monde Noir, des sœurs Nardal et Léo Sajou d'Haïti, on pouvait retrouver l'esprit de Clara Shepard, la militante noire américaine des droits civiques. Paulette Nardal, la plus en vue, participe à la gestation de la négritude. Voilà donc une femme d'origine martiniquaise, fille du premier ingénieur noir de l'île, Paul Nardal, qui deviendra institutrice, qui quittera la Martinique à 24 ans dans le dessein de poursuivre des études de lettres en France et deviendra la première femme noire à étudier à la Sorbonne. On la croise dans le Bal Nègre. Chez elle, à Clamart, c'est un véritable salon littéraire où se retrouve la crème de la diaspora noire. Senghor, Césaire, Damas, Chris Mars, René Maran ou encore l'américain Claude McKay, qui instille dans ce lieu de l'atmosphère venue de la création afro-américaine. Nardal expliquera la raison de l'absence des femmes dans le récit officiel de la négritude. Césaire et Senghor ont repris les idées que nous avons brandies et les ont exprimées avec beaucoup plus d'étincelles que nous n'étions que des femmes. Je relis la phrase complète. Césaire et Senghor ont repris les idées que nous avons brandies et les ont exprimées avec beaucoup plus d'étincelles. Nous n'étions que des femmes. Nous avons balisé les pistes pour les hommes.
Il fallait bien que ce soit dit. Et nous allons donc commencer avec la quatrième leçon. Nous avons terminé avec la négritude et nous allons recommencer en étudiant les leçons 5, 6 et 7. La huitième, consacrée aux éditions, nous n'aurons probablement pas le temps de vous en parler. Quels sont les thèmes de ces leçons? D'abord, littérature nationale et démagogie, avec ce problème, est-ce que les écrivains sont les serviteurs des régimes plus ou moins corrects dans lesquels ils sont placés? Ensuite, il y a l'Afrique noire de France, les Africains noirs, et face à leur histoire, et puis avec notamment la question de l'esclavage, les enfants soldats. Ça, il y a un chapitre très... je ne veux pas faire l'article avant, vous risqueriez d'être déçus. Donc, quelque chose sur les enfants soldats. Et enfin, écrire après le génocide du Rwanda. Et les enfants soldats, c'est une partie du chapitre concernant les Africains face à leur histoire. Et Alain Bavancou va donc étudier ce problème de ce qu'il appelle la littérature nationale et la démagogie. Il dit que ce concept de littérature nationale, il contient une terrible contradiction, parce que si c'est du nationalisme qui consiste donc à être la voix de son maître, ou bien est-ce autre chose? Et il y a là deux courants, notamment qui se voit très bien tout au début de la négritude, avec le fossé entre Mongo Betty et Sembène Ousmane. Et cette Mongo Betty, ville cruelle, il dénonce la civilisation, et Sembène Ousmane, lui, c'est un communiste, et il voit une autre Afrique, et nettement, il se fait l'organe de cette idéologie-là. Alors, voyons, page 130.
Étendez à quelques kilomètres du bord de la mer, lieu d'échange et de tous les parcours, je rencontre d'autres possibilités d'être, le colon et la civilisation occidentale. La rencontre même est tragique, parce qu'elle vient comme une pression, une oppression. Je pourrais jeter le bébé avec l'eau sale du bain, mais il faut faire la part des choses. Parce que je n'ai pas eu l'audace de faire la circumnavigation, d'aller faire la conquête des autres mondes, puisqu'on m'apporte la conquête, je la transforme en ma propre conquête. L'histoire me condamne à voir cette démarche-là, donc il y a bien appropriation, transfiguration, fusion de ce qu'on m'apporte avec ce que j'ai en héritage. Je suis en bronze, l'alliage, et qui dit alliage dit métissage. Nous n'avons pas à nous présenter au monde comme les complexés qui font des empreintes d'une façon éhontée et prédatrice. Dans nos propres sociétés, dans notre culture, il y a tous les éléments qui peuvent fonder une modernité, notre présence dans le monde d'aujourd'hui.
Voilà, c'est Chikaya Utansi, avec lequel nous avons déjà fait connaissance, avec son livre, une pièce de théâtre. Elle a écrit des poèmes, une pièce de théâtre et des livres et des romans, qui s'appelait Le bal de Dinga. C'est un Congolais du Congo Kinshasa qui est mort dans un accident de voiture et qui représente une synthèse entre ces deux courants dont je parlais, que je nommais le courant qui dit que c'est la rencontre avec les Européens qui fait tout le malheur de ce qui se passe maintenant en Afrique, et un autre courant qui est surtout orienté vers la lutte sociale et vers la belle idée communiste. Voilà. Et ensuite, dit-il, et Chikaya Utansi, lui, il dit « j'ai la langue française ». C'est un de mes héritages, mais je la retourne pour dire ce que j'ai à dire. C'est un bel exemple de retournement. Et là, à partir des années 70, ce qui compte, et ça emporte tout, c'est le courant du néo... C'est la lutte contre le néocolonialisme auquel ils sont déjà confrontés. Et c'est là qu'il cite Amadou Kourouma, avec son premier livre, les soleils des indépendances. Les soleils, c'est les années. Nous l'avons lu il y a bien longtemps à la radio Galère. Et son héros, c'est un oublié de l'indépendance, un petit roi, lieutenant de roi. Qui se trouve dans la misère et qui ne trouve pas de travail. Et ça se passe en Côte d'Ivoire. Et au contraire, il y a d'autres écrivains à partir de ces années 70 qui veulent ce qu'ils appellent écrire sans la France. On me dit, qu'est-ce que ça veut dire écrire sans la France? Eh bien, c'est qu'ils veulent qu'on écrive des livres africains dans les langues africaines d'origine. Et il dit que c'est un essai qui a été fait, mais que c'est très dangereux, parce qu'on arrive à une dégénérescence de l'affaire. Et il donne l'exemple de Boubacar Boris Diop, dont nous avons entendu parler, parce qu'il a écrit, c'est un Sénégalais qui a écrit en commun avec la femme de l'ancien président du Mali, le nom va m'en venir, qui est professeur d'histoire, qui s'appelle la gloire des flûtes, aux flûtes, la gloire des prédateurs. C'est pas prédateur, c'est le mot, ça me reviendra, excusez-moi, hein. Voilà. Et lui, il a fait un premier roman en français, ensuite un second en langue wolof, c'est la langue la plus parlée au Sénégal. Certes, il y a le bambara, mais le wolof, c'est une langue qui a su se développer dans toute l'Afrique. Et ensuite, ben, il est revenu à l'expression française avec un dernier livre qui s'appelle « L'impossible innocence » et qui est écrit dans un français impeccable, mais ultra classique. Et il donne l'exemple aussi de cet éditeur qui a réédité en français un livre qui était écrit en africain, un auteur africain en Afrique. C'est bien le cas de le dire, mais c'est traduit du français et en africain. Voilà comment les choses se passent dans ce monde de l'édition. Il donne l'exemple d'ailleurs, Mamankou, de Salman Rushdie qui écrivait en anglais, qui a bien été traduit en français. Et personne n'y trouve à redire parce qu'on sent là qu'il y a des disputes entre les écrivains. Et oh non, non, si tu écris pas en africain, c'est pas sérieux. Il faut écrire, quand on est africain, on écrit africain. Et eux, ils aiment la langue française, c'est la leur. Ils se disent français ou même souvent européens. Et il n'est pas question qu'ils entrent dans ces considérations. Il y a une autre considération qui est importante aussi. Et c'est l'opposition, une fausse opposition entre les écrivains du dedans et les écrivains du dehors. C'est une opposition qui est dangereuse. On la voit avec la gloire de Boris David Diop, qui est né à Bordeaux et qui est considéré comme une des plus grandes voix de la négritude. J'ai dit Boris, non, c'est pas le même, c'est un écrivain, un poète, David Diop. Eh bien, on lui reprochait d'être en France. Et pourtant, c'est un des plus grands écrivains de la négritude. Et ils disent que celui qui est dehors est déconnecté de la réalité africaine et qu'il écrit non pas pour ses frères africains, il disait frères, mais une écriture formatée pour des blancs. Je me demande si le livre qu'on va vous lire la semaine prochaine, c'est pas un peu ça, parce que c'est tellement exotique et tellement charmant, et ça s'appelle « De l'Afrique à la NASA », parce qu'il se trouve, employé à la NASA. Bon, mais c'est pour la semaine prochaine, inutile d'en parler trop longtemps. Et enfin, il revient en fin de chapitre, en fin de partie de chapitre, sur Stuka Ntansi, qui a écrit une œuvre qui s'appelle une œuvre critique de cette littérature qu'il appelle une littérature de boy. Alors, voilà pour cette cinquième leçon. Voyons maintenant la sixième leçon, maintenant sans avoir mis un peu de musique. Sixième leçon, Radio Galère, toujours Alain Mamankou. 8 leçons sur l'Afrique. Et il va traiter dans cette leçon-là de l'Afrique et la France noire face à leur histoire. Et pour introduire, il revient à son livre qui s'appelle « Le sanglot de l'homme noir ». On sait qu'il y a eu le sanglot de l'homme blanc qui a eu beaucoup de succès. Et selon qu'on dit que c'est le bilan, le sanglot de l'homme noir ou le sanglot de l'homme blanc, c'est pour les intérêts qui sont en jeu, bien sûr. Et on voit bien que son sanglot de l'homme noir, il y tient beaucoup. Et il a fait l'objet d'une critique violente. Et on n'a pas le droit, parce qu'on est un auteur brillant, de faire n'importe quoi, page 142.
Le problème avec les hommes qui disposent d'un talent exceptionnel est qu'ils se donnent parfois le droit de faire n'importe quoi. C'est ce que vient d'illustrer le lauréat du prestigieux prix Renaudot 2006. En un texte inégal et un peu énervé, l'écrivain congolais Alain Mabankou livre dans « Le sanglot de l'homme noir » Fayard 2012 sa vision de l'Afrique et des Africains émigrés, de la littérature française et surtout de la nouvelle citoyenneté française à laquelle il revendique d'appartenir. Il dit ça et là des choses très justes avant de s'égarer dans des logorées où il montre comment ce que l'Afrique a de plus brillant est souvent tenté par la facilité, la fuite, la fatuité, etc. Sauf qu'Alain Mabankou avait autre chose à dire dans ce livre, une chose bien plus lourde, nettement plus discutable, et qui manifeste une régression de sa part. Il ne s'agit pas de la littérature. L'écrivain franco-congolais, on le considérera désormais ainsi, avait une mise au point à faire. Il est français parce que ses parents l'avaient été, comme tout le monde et sans le vouloir, au Congo-Brazzaville avant l'indépendance. Qui imagine un Mongo Betty ou un Wall Soyinka qui ont pourtant passé des décennies de leur vie dans leur ancienne métropole, consacrer un livre de 180 pages à batailler avec le français ou l'anglais de souche pour le convaincre de sa stricte appartenance à la même patrie que lui.
Voilà, il est violemment, violemment attaqué, et le livre est l'objet aussi d'une autre attaque, c'est qu'il fait partie de ceux qui disent trop que les Noirs en France ont été victimes d'une grande discrimination. Et il dit ils n'ont pas été, c'est pas une communauté fondée par l'esclavage, non, pas du tout. Ils n'ont pas le monopole de la misérabilité. Alors un Africain américain, il fait la comparaison, il dit un Africain américain peut se dire si on veut pas de moi, je rentre dans mon. Il ne peut pas se dire si on ne veut pas de moi, je rentre dans mon pays. C'est pas possible. Le pays de substitution, donc en France, est un frein à l'émergence d'une autre France ou d'une France autre. Les Noirs sont des citoyens, ils les appellent des citoyens, les Noirs en France, alternatifs.
Moi, ça me choque d'ailleurs qu'ils disent les Afro-Américains, ils pourraient dire les Noirs américains maintenant. Je ne sais pas, ils sont bien là. Pourquoi toujours rappeler ça?
Et il dit que la grande question, c'est la citoyenneté dans le territoire d'adoption. J'aime bien le territoire d'adoption. Oui. Maintenant, on va voir le plus grand reproche qui lui est fait. Ah là là, c'est à cause du chapitre du livre qui est intitulé Le devoir de violence. Le titre a été repris pour un livre entier, mais là, c'est ce chapitre. Alors, il est vraiment... dans ce chapitre, le livre se présente comme une série de lettres à son fils. Dans ce chapitre-là, il évoque la traite, le commerce triangulaire ou la traite des Noirs. Et nous, on connaît surtout ça en pensant à Bordeaux, Mais en fait, l'expérience est beaucoup plus large et il le montre bien, son fils. Ça concerne les ports du Havre, Nantes, La Rochelle, Saint-Malo, et il m'en manque, mais tant pis. Il met en exergue le fait que ce sont des Noirs, souvent, qui ramassent les esclaves dans le centre du pays et qui les ramènent ensuite vers la côte. Et il met en valeur le fait que des Noirs ont collaboré avec des négriers. On les appelait d'ailleurs les négriers noirs, hein, qui faisaient ce commerce-là. Et une autre...
Alors moi, j'ai une histoire de mariage, en page 153, si tu retrouves où c'est.
154, oui. Mais il est aussi attaqué par le fait que certains, alors là, c'est les autres, qui le reprochent aux Noirs d'avoir pratiqué l'esclavage, d'avoir été les supplétifs des messieurs. Page 154, il y a un...
Bon. En attendant le mariage qui aurait lieu le lendemain, nous avions décidé d'aller faire la fête au Zanzibar, une boîte de nuit africaine. Tim avait déjà bu quelques verres de whisky dans sa chambre. C'est lui qui avait souhaité qu'on aille danser africain pour qu'il retrouve ses racines. Quand j'écoute la musique africaine, c'est comme si je retournais chez moi. Ce soir, je veux retourner chez moi. Dans la voiture, il s'assit à côté de Pierre qui conduisait, tandis que je prenais place à l'arrière. Au milieu du chemin, alors que j'étais persuadée qu'il dormait puisque son menton était collé à sa poitrine, l'Africain-Américain se redressa brusquement et commença à délirer. « C'est de la merde, l'Afrique !» J'éclatai de rire, mais très vite, ses blagues se changèrent en attaques contre moi. « Mandingo, c'est bien de sortir de ta brousse africaine, non ? Tu es content de rouler dans une voiture américaine et de travailler dans une université de mon pays, hein ?» Comme je ne lui répondais pas, il éleva la voix. « C'est à toi que je parle, Mandingo !» Tu peux au moins répondre à un fils d'esclave, ou bien ton rang de chef de tribu africaine te l'interdit. Pierre essaya de le calmer, mais Tim était subitement hors de lui. Non, ce mandingo, il faut qu'il me réponde. Il me doit des explications, et j'en ai marre de me taire. Tim, allons, tu ne trouves pas que tu commences à pousser le bouchon un peu loin ? Fit Pierre en ralentissant l'allure de la voiture.
Avant la deuxième partie de cet incident, qui est grave, il a failli perdre la vie, hein, il aurait pu. Et je dis qu'ils sont... Tim, c'est un métis, et qui fait une thèse sur, tiens, Denis Laferrière, et l'autre... Non, Pierre est un métis, et l'autre, Tim, est un afro-américain, mais qui est éboueur. Et on voit là tout d'un coup ressortir une haine qui est très profonde et très ancienne.
Non, ce mandingo, il vient de mon pays. On lui donne un bon boulot dans une grande université et moi je fais un job de merde, comme à l'époque de l'esclavage. Lui et ses ancêtres, ils m'ont vendu aux blancs. Et c'est à cause de lui que je ne suis qu'une punaise en Amérique. S'il ne m'avait pas vendu, je serais restée en Afrique. Même pauvre, j'aurais au moins été libre. « Je vais le tuer. Je te jure, Pierre, je vais le tuer. » Pierre et moi ne savions plus quelle attitude adopter. Tim avait maintenant les yeux rouges de colère et le regard qu'il me lançait trahissait une haine qui semblait venir de très loin. Je demandai à Pierre de s'arrêter pour que je sorte de la voiture, mais cette proposition jeta de l'huile sur le feu. Tim s'époumona. « Tu ne sortiras pas de cette voiture, je dois te tuer. » Il se retourna vers moi et en une fraction de seconde, je vis ses longs bras se tendre vers mon cou. Je reculai pendant que la voiture zigzaguait. Pierre se gara sur la bande d'arrêt d'urgence et je bondis. Puis Pierre redémarra tandis que Tim hurlait de rage. « Je vais te buter, sale Africain !» Un taxi me ramena à l'hôtel. Dans ma chambre, je rangeais mes affaires et cherchais un autre hôtel dans les parages. Au petit matin, Pierre me raconta par téléphone la fin de la soirée. De retour du Zanzibar, Tim était allé frapper à plusieurs reprises à la porte de ma première chambre. Pierre lui avait demandé d'aller me présenter ses excuses. Mais auparavant, il avait parlé d'utiliser une arme à feu pour m'abattre.
Donc, il a échappé. Il a pu s'échapper de la voiture. Évidemment, il n'est pas, retourné dans sa chambre, lui, parce qu'il se doutait bien qu'il allait venir le rechercher jusque-là. Il a pris une autre chambre dans un hôtel du coin. Une anecdote qui peut sembler, par rapport à aux visions géopolitiques, un peu anecdotique, mais qui montre bien qu'il a connu la discrimination et cette haine des Noirs pour ceux qu'ils estiment privilégiés et par conséquent complices des Blancs. Il y a une autre affaire qui montre à ce moment-là, un peu plus tard, il note le 10 mai, c'est peut-être le moment où il fait sa conférence, je ne sais pas. Parce qu'il y en a une qui se passe en mai, je regarde. Sixième conférence. Le 10 mai, oui, le 10 mai. Alors, ça lui donne une idée, probablement, et il dit qu'il y a une commémoration de la fin de l'esclavage. Et en même temps que cette commémoration, qui devrait être une dénonciation de ce que l'Afrique a souffert, eh ben non, c'est à partir de 48 notamment, il est arrivé le fait de célébrer la mission civilisatrice de la France, et c'est comme ça qu'il présente le personnage de Victor Schœlcher, je n'arrive pas à prononcer, dont d'ailleurs la statue vient d'être démantelée et brisée, qui serait un grand bienfaiteur de l'humanité. Certes, oui, mais enfin, là, il y a une autre part vraiment bien critiquable. Et il y a un autre régime, après la célébration de l'économisation comme facteur de civilisation, le régime qu'on appelle nationaliste, et il n'aime pas trop ce mot-là, est plutôt qui s'insère dans le contexte international de la décolonisation, et c'est ce qui l'emporte. Je me rends compte que dans les années 70, c'est ce courant-là que j'ai connu et dont j'ai lu pas mal de livres, notamment Amadou Kourouma, Les Soleils des Indépendances. Et il recouvre aujourd'hui, dit-il, il recoupe aujourd'hui les déçus de la départementalisation, parce que la Martinique est devenue et la Guadeloupe des départements français, avec une opposition donc de Césaire, mais qui est devenue quand même maire de Fort-de-France. Et ces jeunes élèves, entre autres, hein, et puis ceux qui étaient à Fort-de-France à ce moment-là, ont été très déçus parce que les inégalités sociales n'ont pas du tout été supprimées. Et à ce moment-là, est né aussi les comités demandant l'autonomie, demandant l'indépendance. Et c'est ce qui explique, dit-il, la nationalisation des mémoires qui déplore. On voit qu'il est européen, il n'est pas nationaliste du tout. Et on voit encore maintenant, avec la parution du film, le débat sur le film, là je fais un commentaire qui n'est pas autant on emporte le vent. Alors est-ce que ça défend l'esclavage? Est-ce que c'est un livre qui défend l'esclavage? Non, pas du tout. Et moi je pense que si, mais en fait c'est pas une raison pour le censurer en tout cas. Hein. Voilà. Et une conviction qu'il a, favoriser le débat et ne pas tomber dans des positions qui sont des positions sectaires. On va maintenant pouvoir passer à la septième leçon. Qu'est-ce qu'il nous reste comme temps?
Je pourrais lire ce petit paragraphe, page 156.
Ouais.
Ma démarche a été tout au long de ce livre de rechercher ce qui pourrait redéfinir nos rapports, ce qui pourrait nous rapprocher et fonder le vivre ensemble, quelle que soit notre couleur. S'accepter tel que nous sommes et combattre les idées fallacieuses et rétrogrades qui pourraient nous éloigner les uns des autres. Le monde de demain, nous l'avons répété ici, est un monde d'échange et de courtoisie. C'est dans cet esprit que j'ai organisé le colloque du 2 mai dernier, « Penser et écrire l'Afrique noire aujourd'hui », convoquant celles et ceux qui sont les artisans de la reconquête de notre humanisme Et ces femmes et ces hommes, écrivains, historiens, économistes, sociologues, artistes, dramaturges, universitaires, qui ont tous répondu à cette main tendue, œuvrent inlassablement pour que la vision de notre monde ne soit plus unilatérale. Et vous leur avez accordé un accueil et une audience si extraordinaires qu'ils en sont à se demander s'il ne faudrait pas refaire une autre rencontre.
Voilà.
Et après, on va passer à la septième leçon.
C'est ça. Qu'est-ce qu'il nous reste comme temps ?
Il nous reste...
J'ai oublié de te le demander au début.
On a fait 40 minutes et donc...
10 minutes.
5 minutes, oui.
Ouais, ça,
parce que ça dépend si tu veux alors, mettre de la musique
leçon,
ou pas.
Septième leçon, guerre civile et enfants soldats.
Oui.
Alors, il fait la différence qu'on fait habituellement entre les guerres civiles et il appelle ça un conflit un conflit non international. C'est ce que disent les bons esprits. Et il dit de toute façon, les dégâts sont les mêmes. Ils sont de même ampleur. Il cite là nombre de pays qui ont acquis leur indépendance avec le soutien ou des USA ou de l'URSS, l'Indonésie, l'Algérie, la Grèce, l'Indochine 46-54, Angola 75-92, Mozambique 79-98 et le Congo-Brazzaville début 2000 et année 99. On voit là un grand nombre de... On n'y pensait pas, on disait toujours il n'y a plus de guerre en Europe, mais oui, mais il y en avait bien partout ailleurs. Et on remarque aussi que ces dates coïncident avec les 30 glorieuses ou les 30 dites glorieuses. Voilà. Et ces guerres ont un caractère particulier pour les dernières hein, en Afrique, c'est l'utilisation des enfants, ce qu'on appelle les enfants soldats. Ils sont importants tant par le nombre, ça je ne savais pas, 30 à 50% des effectifs, aussi bien que par la qualité, parce qu'ils font peur aux armées régulières, et on voit aussi une participation des filles. Je ne savais pas l'importance des enfants soldats pour moi, c'était pourtant, c'est vrai qu'on en a parlé, hein, toutes les associations hein, humanitaires ont dénoncé cette affaire-là. Et il fait remarquer qu'il y a une certaine poétisation de l'enfant soldat, c'est-à-dire qu'on le c'est pas poète au sens que c'est arrangé, bien arrangé, non, c'est qu'il le fabrique. Il le fabrique de deux façons, ou bien en montrant quelqu'un qui brandit une arme avec un grand sourire, ou bien au contraire quelqu'un qui donne le bras à la mort. Ces évocations sont pas éloignées des clichés. Et il note que notamment dans les études africaines, une dame nommée Charlotte Lacoste, face aux dames, hein, dans un article des études africaines, montre cette poétisation de l'enfant. Page 164.
Il y a d'abord le préjugé qui voudrait que l'art ne colle pas le réel de trop près. C'est l'idée que la littérature gagne en littéralité ce qu'elle perd en précision et que l'œuvre d'art digne de ce nom doit se mouvoir dans une certaine abstraction. Les auteurs de fables édifiantes croient conférer à leur œuvre une dimension d'universalité en déspécifiant leurs propos, manière de suggérer que ce qui est décrit pourrait se passer en tout temps et en tout lieu. Or, bien des chefs-d'œuvre prouvent au contraire que l'œuvre d'art s'accommode très bien du réel, à commencer par le conte philosophique. La critique voltairienne contre l'arbitraire et la violence n'aurait pas été aussi efficace si Candide n'avait pas évolué dans un univers référentiel précis. On pourrait évoquer, pour conclure, deux œuvres en illustration, un roman de Kuruma et une autobiographie de Gaël Faye.
Voilà, Amadou Kuruma a le... dans son roman « Allah n'est pas obligé », à l'art de montrer un enfant soldat. Et c'est vraiment un grand livre, et très très vivant, évidemment, qui n'est pas sucré et qui fait pas... Il y a des gens qui l'auront et qui l'auront condamné parce que trop dur. Et à la Mamankou, il ne dit pas la même chose. Il dit que l'enfant soldat est tellement bien montré qu'on est séduit par lui et qu'on risque de tomber dans dans sa mentalité-là. Et il se pose des questions sur le succès qu'a eu Amadou Kourouma avec Allah n'est pas obligé. Moi-même, je l'ai laissé voir que j'avais trouvé le livre merveilleux. Eh bien, il dit que si à ce moment-là, quand il est paru, si on n'avait pas lu ce livre, eh bien, on était taxé de ne pas porter aide à personne en danger. Je me suis dit, j'étais bien dans le livre.
Tu l'as lu à la radio ?
Oui. Et c'est vrai que le livre a un grand succès parce qu'il a à la fois une actualité brûlante et puis une portée morale. Et si on ne l'a pas lu, je répète, si on n'avait pas lu, on se sentait coupable. Et quand même, il répète qu'il y a une certaine fascination, comme dans le livre Les Bienveillantes de John Knittel sur le nazisme, une certaine fascination du mal. Mais ce qu'il apprécie le plus, j'en viens au langage, parce qu'il n'oublie jamais le langage quand même, même si la politique est très importante pour lui, eh bien, l'enfant, parce que c'est la voix d'un enfant qui s'exprime dans tout le livre, il cherche ses mots. Alors on peut penser que c'est parce qu'il n'a pas, il traverse plusieurs pays et qu'il n'a pas le temps d'apprendre la langue et qu'il a oublié le pays, son pays d'origine, en tout cas, il passe du Liberia jusqu'au Congo. Et là, il dit non, c'est pas parce qu'il a oublié son pays d'origine ou qu'il n'a pas eu le temps d'apprendre, c'est qu'il hésite devant l'horreur de ce qu'il a à dire. Il y a une espèce d'euphémisme dont il dit que c'est un des charmes du style. Et il donne, Alain Mamankou donne aussi un autre exemple, il dit qu'il n'est pas allé au Liberia, il est allé à Djibouti, et d'ailleurs la conférence, la leçon est dédiée aux enfants de Djibouti, et il est allé, et c'est là qu'il a appris ce que c'était qu'un enfant soldat, et il a dit, j'ai jamais voulu aller en Sierra Leone, au Liberia, des pays donc traversés par son héros, Ibrahima, et parce que ça aurait gêné le travail de la fiction. Il a fait exprès de ne pas y aller, mais quand même, c'est bien parti du choc qu'il a eu à Djibouti. Et il cite aussi un autre roman, celui de Gaël Faye, « Petit, petit pays » ou « Une enfance en temps de guerre ». Ce qui est intéressant avec Gaël Faye, c'est qu'il revient en arrière, dans les années 61, au moment du premier développement du racisme anti-Tutsi, au Burundi. Alors il termine ce chapitre-là par le Burundi et consacre un long chapitre au Rwanda. Mais ce Gaël Faye est un enfant dont la mère habite un pays tranquille au Burundi, j'ai oublié le nom. Son père fabrique de l'huile de palme, il a une usine d'huile de palme, et sa mère, silencieuse, est d'origine rwandaise. Et la situation politique au Burundi est l'inverse de celle du Rwanda, puisque ce sont les Tutsis qui sont au pouvoir après s'être révoltés. Et il y a eu une campagne contre eux après la Première Guerre mondiale. Et cet ensemble, le Burundi-Rwanda, faisait partie d'un grand ensemble qui s'appelait un seul pays, Rwanda-Urundi. Ça faisait partie de l'empire colonial allemand. À la suite de la Première Guerre mondiale, la province, il est devenu une province du Congo belge par décision de l'ONU. Donc je reviens à la famille après avoir essayé de montrer le contexte historique. Le père est donc dirigeant d'usine de Palme. Autre personnage important. Ah oui, ah oui. Oui, j'aurais bien pu le dire. Hein. Il a un ami belge qui a une belle villa avec une terrasse dans la région des Grands Lacs où il les invite et il voit sa mère qui d'un air pensif regarde au loin son pays et il y a une fête, il est dans son village, il a de bons amis qui sont africains, lui donc il est métis et il y a un incident au jour d'une fête qui était sa fête d'anniversaire. Et cet incident, c'est que quelqu'un veut entrer et lui et ses camarades disent ah non, tu n'entres pas, tu n'es pas invité. Et donc, il s'ensuit un incident. Et puis, heureusement, avec un orage, les choses se calment, les pierres ne sont plus échangées et ils se mettent tous à danser. Et c'est l'occasion pour Alain Marancou de dire son amour de la musique et le pouvoir de la musique. Page 109.
109.
Et oui, on revient en arrière.
D'accord.
Oui, non, mais c'est là.
C'est dans l'autre livre.
Oui,
voilà.
Oui, oui.
C'est dans Gaël Faye, Petit Pays.
J'ai mis un.
109, là. Voilà. Et on s'arrêtera là-dessus, ça sera la fin de l'émission. Personne n'a résisté à l'appel de cette musique effrénée qui s'emparait de nos corps comme un esprit bienveillant. La trompette essoufflée essayait tant bien que mal de suivre la cadence des percussions. Protée et Innocent frappaient ensemble les peaux tendues des tambours.
C'est des amis.
Le visage crispé par l'effort, une épaisse transpiration coulant sur leur front luisant. Les mains des convives tapaient la mesure et les pieds martelaient le contretemps en soulevant la lourde poussière de la cour. La musique allait aussi vite que les pulsations de nos tempes. Les battements s'empilaient les uns aux autres, le vent soufflait, remuait la cime des arbres du jardin. On percevait la vibration des feuilles et le bruissement des branches. De l'électricité flottait dans l'atmosphère. L'air avait une odeur de terre mouillée. Une pluie chaude était sur le point de s'abattre sur nous, si violente que l'on se mettrait alors à courir pour ramasser les tables, les chaises, les assiettes, avant d'aller s'abriter sous la barza et de regarder la fête se diluer dans le vacarme des trompes d'eau. Bientôt, ce serait la fin de mon anniversaire. Je profitais de 7 minutes avant la pluie, de ce moment de bonheur suspendu, où la musique accouplait nos cœurs, comblait le vide entre nous, célébrait l'existence, l'instant, l'éternité de mes 11 ans, ici, sous le ficus cathédral de mon enfance, et je savais alors au plus profond de moi que la vie finirait par s'arranger.
Ça ne s'arrange pas du tout, même puisque va commencer le génocide du Rwanda et l'assassinat de 2 présidents dans l'avion. Mais ça on vous emmènera au Rwanda la prochaine fois. Galère.
A song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika.